France Culture.
Ça a forcément marqué un peu la manière de concevoir la musique pour moi. C'est un peu toute la licence Zelda. Je suis très attaché à cette licence, je l'adore. Et je la trouve très poétique et très belle, et j'adore ce sens de l'aventure. Pour moi, la musique, c'est le meilleur moyen de se souvenir et d'aller chercher de la nostalgie et de la mélancolie. Et du coup, quand la musique est belle et qu'elle est bien présente pour accompagner l'univers et qu'elle est là pour ce personnage-là, elle devient un petit peu éternelle, elle devient une part du personnage.
Le principal challenge, c'est de faire de la musique procédurale, c'est-à-dire de la musique qui évolue avec les actions des joueurs et de quand même faire des chansons de pop chantées. There was a time when I would shatter at every hit or so, but now I barely feel the pain when I fall. C'est une approche complètement différente d'une bande-son de film ou même d'un album classique. C'est vraiment l'idée de presque pouvoir les chanter en live, en fait, et de pouvoir s'adapter comme un DJ set avec le joueur.
France Culture.
La série musicale. Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les épopées musicales, de toutes les créations les plus audacieuses, une heure de radio sur la musique. Et en musique, c'est la série musicale, bienvenue. Et nous voici à la demande générale de nombreux auditeuristes qu'on salue chaleureusement. Nous voici de retour pour l'épisode 3 de notre série « Jeux vidéo, créer des mondes, créer des émotions ». Alors qu'au printemps, dans quelques jours, vous pourrez découvrir à la Philharmonie de Paris une exposition entièrement consacrée à la relation entre la musique et les jeux vidéo. Ce genre entier, ce pan, ce nouvel art presque, devenu au fil des décennies l'un des faits culturels majeurs du XXe et du XXIe siècle. On vous l'a déjà raconté, aujourd'hui la musique de jeux vidéo occupe une place complètement fondamentale à la fois dans le paysage musical. Elle est inspirée autant qu'elle inspire, on y reviendra dans notre épisode 4. Certains des concerts qui mettent en scène les musiques du monde vidéoludique font partie des concerts de musique classique les plus courus. Cette musique, elle occupe une place hyper importante aussi sur toutes les plateformes de streaming. Car après avoir exploré dans l'épisode 1 les prémices de cette musique de jeux vidéo à une époque de contraintes techniques hyper exigeantes et la naissance de ce métier de compositeur ou de compositrice de jeux vidéo, alors qu'au départ il n'y avait que des techniciens, et dans l'épisode 2, avoir raconté un peu la manière dont, malgré justement des moyens techniques encore très embryonnaires dans les années 90 et 2000, ces mêmes compositeurs ont commencé à façonner l'expérience des joueurs. On se plonge désormais dans la création contemporaine qui est, disons-le franchement, d'une richesse absolument éblouissante. Car depuis le mi-temps des années 2010, les contraintes techniques se sont considérablement allégées, ouvrant un champ quasiment infini pour l'invention de la musique de jeux vidéo. Aujourd'hui, les compositeurs et compositrices ne se contentent plus simplement de susciter des émotions, d'accompagner les gestes du joueur ou de renforcer l'immersion narrative. Aujourd'hui, ils construisent des mondes sonores vivants où la musique se déploie et réagit en temps réel aux actions, aux choix et même aux hésitations du joueur. C'est ce qu'on appelle la musique adaptative. Chaque personnage, chaque environnement, chaque action peut déclencher des variations musicales, superposer des motifs ou transformer un thème qui est familier pour refléter l'état de ce qui se passe dans le jeu et l'état donc du joueur. Le joueur devient presque lui-même un interprète, un DJ, un musicien qui fait vivre, qui actionne cette bande-son. Dans cet épisode, on explore explorera tous ces univers grâce à des créations évidemment qu'on aura choisies parmi un océan de possibilités avec des compositeurs, des compositrices de renom et notamment le tout jeune mais déjà très renommé Lorient Testard et ses mondes poétiques qu'il déploie dans le jeu français indépendant qui a tout conquis, j'ai nommé Clair Obscur, on y reviendra, à Woodkid, sa bande son conçue comme un origami dans Death Training 2 en passant par Gustavo Santaolalla et son travail profondément émotionnel sur The Last of Us, mais il y en aura d'autres. Préparez-vous à entrer dans ces mondes où la musique ne se limite plus à accompagner l'action, elle crée le monde. Elle accompagne vos émotions, réagit à vos gestes. C'est un voyage où il y aura des variations, des silences. Et on essaiera de comprendre comment cette révolution sonore s'est imposée depuis 2010 et continue à transformer le jeu vidéo et notre expérience dans un épisode ô combien non exhaustif et comme toujours très subjectif et subjugué dans la série musicale sur France Culture. La bande originale du jeu Clair Obscur, Destination 33, et le titre phare d'ouverture de ce jeu, Alicia, interprété en direct lors des Games Awards de décembre dernier 2025, où ce petit jeu inventé à Montpellier par un studio indépendant français a raflé, c'est un record, 9 Games Awards, dont celui du meilleur jeu, de la meilleure direction artistique, de la meilleure narration, mais aussi de la meilleure musique. Il y aura peut-être un avant et un après, c'est ce que disent les gamers. Clair Obscur Expedition 33. Grand mystère ou pas d'ailleurs de la magie de ce jeu qui a énormément misé sur le développement de sa musique pour créer un univers qui s'impose directement dans la mémoire du joueur. Et cette musique, elle est signée par un jeune français, guitariste, compositeur que Le studio Sandfall et Guillaume Broche, le créateur du jeu, ont rencontré sur un forum à l'époque. Il avait 25 ans, il a travaillé sur cette bande-son complètement fleuve de 154 pistes, divisées en 3 disques comme les 3 volumes du jeu pendant plusieurs années. Et on doit aussi beaucoup à sa rencontre avec la merveilleuse chanteuse que vous entendiez ici, Alice Duport-Percier, qui a la création de toutes les lignes vocales de cette immense et très longue bande originale, qui a à la fois tous les codes du JRPG, c'est-à-dire du jeu de rôle à la japonaise, qui est vraiment l'univers duquel se sont inspirés les créateurs. Il a les codes des jeux japonais, mais il a une signature vraiment très européenne, notamment, vous l'entendez sous ma voix, dans des allusions musicales, à la fois à des chants médiévaux, des chants de la Renaissance, il y a de l'accordéon, il y a une langue inventée, il y a beaucoup de morceaux en français, quelques-uns en anglais, on y reviendra, évidemment. Mais pourquoi une bande son aussi longue? Pourquoi un tel travail sur le son? Car aujourd'hui, on le sait, la musique est déterminante, notamment parce qu'elle est devenue complètement adaptative. Elle réagit à la façon dont le joueur, la joueuse, se déploie, se développe, évolue dans sa quête du jeu. Comme le raconte l'orienté star qui essayait d'expliquer à ceux qui n'y comprendraient rien comment on invente et on découpe la musique concrète pour un jeu vidéo aujourd'hui dans les années 2020.
En général, je vais composer un morceau entièrement. Donc, par exemple, je vais avoir le morceau de lumière qui dure 3 minutes 40. Et dans ces 3 minutes 40, j'ai toutes les pistes du morceau. J'ai la partie de guitare, la partie chantée, les cordes, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des stems dans le milieu de la musique. Et à partir de ces stems-là, on va pouvoir créer des variations des morceaux. Donc, par exemple, pour certaines cinématiques, on va juste prendre la voix pour la décliner et mettre autre chose dessus, ou on va juste prendre les cordes. Ça permet de créer beaucoup de liens entre les morceaux et d'avoir des musiques de background qui reprennent un petit peu les motifs des morceaux précédents. Et donc c'est un petit peu un jeu comme ça. Ça, c'est, on rentre dans le domaine un peu de l'implémentation musicale dans le jeu, du coup. Ça, c'est Raphaël Joffre qui s'en occupe sur le projet.
Okay.
Du coup, il avait accès à tous mes stems et on a créé des transitions entre chaque zone, entre chaque musique pour raconter l'histoire et le monde le mieux possible.
Breath of the Wild, un morceau essentiel de l'une des franchises dont on vous a déjà évidemment énormément parlé dans cette émission sur les jeux vidéo. C'est la franchise de la Legend of Zelda et le travail absolument fondateur de Koji Kondo, qui n'est pas à la manette sur ce jeu, mais qui est le compositeur historique, l'auteur des thèmes originaux de Zelda, qui a non seulement créé ses motifs iconiques, mais l'identité sonore de la série et même la manière dont cette musique est fondamentale dans l'existence même de cette franchise, dans la manière dont le joueur, la joueuse entretient une relation fondamentale avec ce monde de Zelda. Là, ici, on est en 2017, Breath of the Wild, et on continue d'explorer le vaste monde ouvert d'Hyrule avec un travail, vous l'avez entendu, sur la spatialisation des sons qui reste très fidèle dans les couleurs du piano à ce qu'avait instauré Kondo, mais qui fait en sorte, et c'est tout le principe de la musique adaptative, qu'on ne pourra pas vous rendre fatalement dans une émission, puisqu'on ne peut pas, comme le font les joueurs et les joueuses, se balader dans un jeu, mais simplement vous faire entendre la manière dont chaque zone du jeu a sa propre identité sonore. Parmi les compositeurs et surtout les compositrices qui nous semblent, à l'instar de l'Orient et Star, très tributaires, pas seulement de la couleur qu'a instauré Kondo, grand mythe de la musique, mais surtout dans la façon dont il, elle, façonne et utilise des sons de synthèse parfois, alors qu'aujourd'hui on n'a plus nécessairement besoin de faire appel à des sons qui, dans les années 80, étaient omniprésents. Des sons de synthèse qui vont produire des images qui, justement, vont entrer en contact avec la manière dont on appréhende le jeu. C'est l'un des grands enjeux de cette émission, c'est de vous faire comprendre que on n'est plus du tout dans une illustration sonore du jeu. On n'est pas non plus dans une musique ou une bande originale comme on le ferait pour le cinéma. Il est vraiment question de composer à la fois en dehors des scènes et des lieux du jeu et en même temps de manière à ce que tout soit adaptable. Écoutez la manière dont Lena Raine, dont on vous a déjà pas beaucoup parlé, a composé pour Minecraft Caves and Cliffs ce titre, par exemple, Other Side. On était en 2021 avec des sons de synthèse qui évoquent les stalactites et l'eau souterraine pour immerger littéralement le joueur. Magnifique Lena Raine, dont on vous a déjà parlé, du travail sur Céleste par exemple, qui nous semble-t-il l'une des compositrices les plus intéressantes aujourd'hui, les plus fondamentalement, on va dire, embarquées dans cette dans cette volonté de faire vivre des expériences fortes aux joueurs et aux joueuses, et aussi à retisser le lien avec l'histoire du jeu vidéo et de ses sonorités, puisque quasiment tous les joueurs les ou la connaissent. On va écouter maintenant justement une autre tentative de vous raconter comment la musique s'adapte, en l'occurrence dans le jeu Hellblade, avec un titre en l'occurrence composé par David Garcia, mais aussi, et c'est ça qui est très intéressant avec la musique adaptative, c'est que toutes les équipes audio en interne de ces jeux sont aujourd'hui très impliquées, puisque ce sont eux ou elles qui vont travailler avec ou parfois après le compositeur ou la compositrice sur la manière dont les motifs dont on vient de parler vont se déployer. Écoutez ici Senua's Sacrifice, composé par David Garcia, qui nous plonge dans l'immersion psychologique, la perception altérée. Ici, l'idée, c'est de rentrer dans la psyché de Senua et de raconter le trouble mental. Et on a utilisé le son binaural. Vous connaissez cette technique qui fait que vous pouvez entendre vraiment une spatialisation du son si vous écoutez au casque, ce qui est le cas de la plupart des joueurs, pour qu'on ressente les voix dans la tête du personnage. L'incroyable travail d'immersion sensorielle quasi totale dans Hellblade, dans ce morceau Grammar avec ses voix. On va écouter désormais un titre très intéressant et surtout un créateur très intéressant qui ne vient pas immédiatement du jeu vidéo. Il s'agit du musicien et réalisateur Woodkid, extrêmement célèbre pour ses clips et puis son incarnation très poétique, une forme de noirceur mélancolique, qui a rencontré un créateur japonais, Hideo Kojima, dans les années 2020, avant la pandémie en réalité, et qui a été invité à écrire la musique du jeu Death Stranding 2. Même univers sombre et poétique pour le créateur et pour Woodkid, qui décide de composer donc pour ce jeu où on est plongé dans un monde post-apocalyptique avec une frontière très légère entre les vivants et les morts. Il est question de reconnecter justement des communautés qui sont très isolées sur le territoire, et là l'enjeu était énorme, avec un défi vraiment très important: créer une musique adaptative, comme on vous l'a raconté, à la fois procédurale et chantée, capable de suivre les actions du joueur, mais chantable, c'est-à-dire que chacune puisse produire une chanson. Écoutez Woodkid nous raconter ce défi.
J'ai pas forcément réfléchi la musique complètement à l'image. puisque c'est Hideo qui a beaucoup retravaillé ces cutscenes et qui a appliqué la musique, qui a monté dessus, ou les programmeurs qui ont démembré ma musique et qui l'ont recomposée autour des scènes d'action. Donc contrairement à un film, j'ai fait finalement assez peu de musique à l'image. J'ai fait plus une musique thématique de fond. J'ai essayé de créer un sentiment qui marchait avec telle ou telle scène ou tel personnage ou tel moment clé de l'histoire. Le principal challenge, c'est de faire de la musique procédurale, c'est-à-dire de la musique qui évolue avec le joueur, avec les actions du joueur, et de quand même faire des chansons de pop chantées. Parce que je chante dans les chansons. C'est une bande-son, mais elle est chantée. Donc c'est un challenge assez étonnant, parce qu'on doit déplier les chansons, presque comme un origami, et en faire une version de plusieurs heures parfois, qui ensuite va être condensée, reprogrammée par les programmeurs, par les actions du joueur. Et il faut que ça marche à chaque fois. Il faut qu'à chaque fois, ça crée une chanson qui est cohérente, une séquence harmonique qui est cohérente, une séquence percussive qui est cohérente. Donc c'est une approche complètement différente d'une bande-son de film ou même d'un album classique. C'est vraiment l'idée de presque pouvoir les chanter en live, en fait, et de pouvoir s'adapter comme un DJ set presque avec le joueur. Et ça c'est un challenge. C'est pas facile, mais je suis content de ce qu'on a fait. C'est vraiment chouette. To all the words that I won't get to say, the things that time steals and turns to pain. If it's not love to let you leave again, I don't know what is. But if you doubt and question what the future holds, remember there's no place you can't go home. That we are yet to pave, the dreams that stillness entertains and slays. Now if my love for you won't make you stay, I don't know what will. You will never leave a trace where you walk, if the only path you take's the one you're told.
The Wilder, l'un des petits chefs-d'œuvre composés par Woodkid et qui se déploie justement de différentes façons dans ce jeu. On va prendre, pour vous donner justement un éventail de tout ce qui est fait, presque le contre-pied exact, alors que justement, vous l'entendiez, on avait une musique adaptative, et c'est très compliqué, avec, qui doit produire des chansons. Partons à la rencontre d'un jeu, Inside, jeu indépendant danois, où on évolue dans un monde dystopique très sombre et mystérieux, mais où l'histoire est minimaliste au cordeau, il n'y a aucun dialogue et l'intrigue se déploie uniquement par les actions, les environnements et des indices qui sont uniquement visuels. Et du coup, dans cet endroit où il faut éviter des pièges avec très peu d'informations, le rôle de la musique composée par l'incroyable Martin Sting Anderson va être justement d'être adaptative mais minimaliste. Elle doit se fondre dans le jeu, elle doit accentuer les moments de suspense et justement mettre en valeur les révélations visuelles avec, vous allez l'entendre, des sons mécaniques et industriels, puisque là aussi on est dans un univers d'usine qui, paradoxalement, ont utilisé des enregistrements physiques réels. Il a enregistré de vraies machines, de vrais outils, des corps humains qui manipulent l'environnement pour ensuite les repasser en texture musicale électronique. Écoutez. À ce travail de nappe texturée quand même assez éblouissant succédera, vous allez l'entendre, probablement exactement l'inverse, l'œuvre d'un compositeur de bandes originales vidéoludiques complètement glorieux. Il s'appelle Gareth Cocker et vous allez écouter son travail sur un jeu qu'on adore, Immortals Phoenix Rising, dans lequel le joueur incarne Phoenix, qui est un héros ou une héroïne choisie par les dieux de la mythologie grecque. Et le but, c'est de sauver les dieux de l'Olympe d'une malédiction. On est sur un jeu qui est aussi en RPG et qui mélange beaucoup de récits mythologiques adaptés de manière plus ou moins contemporaine, beaucoup d'humour, beaucoup d'exploration d'un monde qui est absolument gigantesque avec des temples, des montagnes, des créatures mythiques. Là, l'idée, ça va vraiment être pour Cocker d'accompagner l'action et justement tous ces changements d'ambiance, donc une bande-son d'une immense richesse et qui va dans à peu près tous les recoins de l'émotion humaine. Cocker s'est inspiré de chants et d'instruments anciens et il a vraiment voulu que chaque exploration musicale soit unique, même si plusieurs joueurs traversent le même monde en même temps. Écoutez ici l'un des très nombreux morceaux de cette bande originale qu'on adore, Goddess of Wisdom, la déesse de la sagesse. On vous invite à découvrir cette bande-son. Mais tout de suite, écoutons l'une des maîtresses de cette musique adaptative. Elle s'appelle Winifred Phillips. Elle est une femme qui a commencé, et ça c'est très intéressant, sa carrière en composant des drames à la radio, des drames radiophoniques, ce qui a développé, dit-elle, sa capacité à créer des images sonores mentales, justement à imaginer la musique sans images, et ce qui se révèle déterminant dans sa glorieuse carrière de compositrice vidéoludique. Elle a notamment un peu explosé avec le jeu Little Big Planet, qui est une espèce de genre de jeu puzzle créatif avec un personnage en tissu dans un univers très crafter, très modulable, vraiment un très joli jeu, où chaque niveau a sa piste musicale unique qui est construite pour réagir aux actions du joueur et donc la musique va se déployer en couches. Écoutons Winifred qui est assez précise et super pédagogique dans sa manière de raconter justement les différentes techniques utilisées selon justement les jeux, les créateurs et parfois les compositeurs pour concrètement créer de la musique adaptative. Alors vous savez, il y a plusieurs magnifiques techniques qui ont été expérimentées au cours de ces dernières années et c'est très excitant parce que on a toujours la sensation qu'une nouvelle frontière est en train d'être dépassée, franchie dans le jeu vidéo. Certaines techniques avec lesquelles j'ai travaillé, par exemple, c'est ce qu'on appelle le séquençage horizontal, dans lequel la musique est composée de très très courts morceaux qui peuvent être arrangés, réarrangés autant qu'on veut en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Et pourtant, toujours rester cohérente, fluide. De cette façon, quand vous utilisez ces techniques, il faut imaginer la musique plutôt comme un puzzle, avec justement toute une série de lignes qui doivent pouvoir s'accorder. Il doit y avoir des combinaisons qui marchent. C'est très inspirant et stimulant intellectuellement pour une compositrice comme moi. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le layering vertical. Et dans cette façon de construire la musique est plutôt envisagée comme une série de couches qui peuvent s'ajouter les unes aux autres, qui sont superposées comme si on construisait une tour, de manière à ce qu'on puisse enlever ou au contraire rajouter des éléments musicaux selon les moments ou les lieux du jeu. C'est vraiment une espèce de métrique avec ces éléments musicaux qui doivent être plus complexes quand il y a beaucoup d'émotions ou se simplifier à nouveau. Et il faut qu'on ait toujours la sensation qu'on écoute la même musique, le même air. C'est vraiment un défi pour une compositrice. Pour Little Big Planet, ils ont un système extrêmement complexe qui a été, pour moi, un apprentissage. Ça vous oblige, en tant que compositrice, à réenvisager la manière dont vous concevez l'arrangement musical, le contrepoint et les relations dans la manière dont, justement, tous ces instruments, le contrepoint, fonctionnent ensemble. C'est à la fois intéressant et très amusant. We'll be right back. La petite bibliothèque de Victoria dans Little Big Planet. On retrouvera le travail de Winifred Phillips au prochain épisode. Mais maintenant, parlons de Christopher Larkin, autre grand nom de cette musique vidéoludique, qui a travaillé sur un jeu assez génial de 2017, Hollow Knight, où le joueur incarne un cavalier silencieux qui explore Hollow Nest, un royaume souterrain oublié. On est sur une exploration qui n'est jamais tout à fait linéaire, avec des combats contre différentes créatures, on résout des secrets, on cherche des puzzles. C'est un univers gothique très mélancolique, inspiré de l'art européen et d'un folklore assez sombre. Et chaque lieu a son propre son, parfois très minimaliste, parfois très orchestral. Écoutez justement la manière dont Larkin a conçu cette musique, ses inspirations, mais aussi comment justement les inspirations européennes peuvent façonner la manière dont vous pensez l'adaptabilité de la musique.
When we started discussing the score for Hollow Knight, one of the things that
quand on a commencé à s'interroger sur le son qu'on voulait pour Hollow Knight, on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait que ça évoque vraiment la mélancolie. C'est un royaume qui tombe en ruine. Ou au moins, il faut susciter cette sensation qu'il y avait quelque chose et qu'elle n'est plus là. Quand on explore Hollow Knight, il fallait justement qu'on sente cette perte. Et puis, il y a un élément gothique.
Je n'ai
pas vraiment été totalement dans cette direction, parce que ce n'était pas vraiment ce qui marchait le plus pour moi. Mais je me suis inspirée de pas mal de musiques de films qui ont cette esthétique gothique, mais surtout beaucoup de Ravel et de Debussy. Parfois, vous avez ces motifs orchestraux très complexes, et qui ensuite redeviennent des toutes petites mélodies au piano. Et j'ai vraiment voulu qu'on ait ça, une mélodie au piano ou sur un instrument solo, qui soit le thème principal, et qu'en plus on puisse complètement l'élaborer, construire des variations autour, complexifier l'orchestration, créer des grands élans émotionnels, et puis ensuite retrouver ce tout petit instrument, tout seul. Je pense que c'est un peu ce que fait Beethoven dans sa symphonie, avec le papa-papa, basé tout autour d'un tout petit motif musical.
Thank you.
les textures assez debussiennes ou ravelliennes de ce Green Path composé par Christopher Larkin pour le jeu Hollow Knight. Alors, il y a le principe de l'adaptabilité de cette musique, comment on la conçoit, comment elle se déploie. Il est aussi question de ce qu'on y raconte. De ce point de vue-là, Clair Obscur est une bande originale qui, en dépit, en plus de son immense génie, commenté absolument partout aujourd'hui sur YouTube, et qui a connu un succès phénoménal dans sa version jouée sur scène avec une tournée triomphale. Écoutons aussi la manière dont Lorient Testard et ses acolytes ont imaginé ce qui se disait dans les paroles de ces musiques. Car le jeu a travaillé énormément sur ce qui est dit dans ces paroles, sachant que le jeu invente sa propre langue.
C'est un langage qu'on a inventé pour le jeu. Après, moi, je me suis beaucoup amusé à cacher plein de petits secrets dans la musique, cacher plein de petits détails dans les paroles. Donc, je suis vraiment très content que... Bah que tout ce que j'ai préparé ait servi à quelque chose et que maintenant ça touche un peu les gens et qui s'amusent avec ça, qui essayent de le décrypter. Mais oui, il y a beaucoup de secrets dans les paroles du jeu. Il y a la majorité de la bande-son est en français, donc avec des paroles que les Français peuvent comprendre. Il y a quelques morceaux en anglais aussi, où c'est des morceaux que je voulais, selon la circonstance et selon l'action qui devait être, je voulais qu'ils soient un petit peu plus ouverts et qu'ils parlent vraiment à tout de suite. Et il y a des morceaux avec un petit peu un mélange de langage inventé, avec des sonorités françaises. Et du coup, il y a quelques clés de décodage maintenant de ces paroles inventées.
Dim, dam, dalilam, vacam, s'en va dans l'oubli éternam, et Gustav, dom guardiam, dili, 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 dam. Sera dolilom seram dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam ton là-haut sera ravi les toits à se renoir griffera clair obscur. Tu trouveras des fées, clair obscur bordé aux peintures, trouveras sans aile, clair obscur trouble de peinture, trouveras des fées, clair obscur bordé aux peintures, trouveras sans aile.
Obscur, toi, vivant, peinture, trouvera sans elle.
Lumière, un morceau qui se décline dans le jeu, et vous avez bien entendu, puisque vous êtes français ou française, qu'il y a du futur dans ces phrases et donc des indices sur la manière dont le jeu se résoudra. Les créateurs du jeu, qui à l'époque ne savaient pas qu'il remporterait un tel succès, se doutaient qu'une immense partie des joueurs ne parlerait pas français et que donc ça serait encore des éléments de décryptage. Le but, évidemment, dans tout ça, c'est d'amener de l'émotion. On va écouter un très grand compositeur de jeux vidéo qui marche à l'instinct. Il s'appelle Gustavo Santaolalla, sur sa volonté de se connecter émotionnellement aux joueurs dans un jeu qui a fait pleurer dans les chaumières, The Last of Us. Quel que soit le projet artistique, quand la musique peut jouer un rôle, elle a vraiment un rôle émotionnel fondamental. J'ai toujours pensé que la manière dont on construit les musiques peut jouer un rôle révolutionnaire dans la manière de se connecter avec le joueur. Quand j'ai rencontré le créateur, il m'a dit « Je veux créer un jeu qui aille chercher les émotions les plus profondes du joueur. » Et c'était mon rêve. Moi, j'ai une version totalement intuitive d'envisager la musique. Je ne sais pas comment l'écrire, ni même la jouer, mais c'est comme ça que je la conçois. Le travail incroyable de Gustavo Santaolalla sur ce Last of Us, où on suit justement Ellie et Joël dans un monde post-apocalyptique qui tente de vivre une connexion émotionnelle avec un compositeur qui a délibérément utilisé des instruments qu'il ne maîtrise pas, justement pour chercher la spontanéité, le minimalisme, qui a beaucoup joué sur les silences et les pauses, justement cette difficulté de communiquer pour accentuer la tension, la solitude. On va se quitter avec une création assez jolie d'Andrew Pralov pour le jeu Outer Wilds, où un joueur explore le système solaire en boucle temporelle de 22 minutes et où il apprend progressivement le fonctionnement des planètes, leurs secrets. C'est vraiment une exploration sur le mystère, les mécaniques, une musique adaptative qui est très dynamique et qui joue sur la circularité. Ça n'est que le troisième épisode de cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la manière dont aujourd'hui ces compositeurs, ces compositrices dialoguent avec le reste du monde, car le jeu vidéo aujourd'hui s'attaque à tout, nous concerne tous et toutes. N'hésitez pas à podcaster les deux premiers épisodes. Merci à Thomas Jost, qui était à la réalisation aujourd'hui, à Olivia Arnay au platine, et à Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale. À bientôt.